Il y a toujours eu des conflits de génération entre les plus vieux et les plus jeunes. Les jeunes, ils seraient paresseux, incultes, égoïstes, individualistes, ils s'intéresseraient qu'au luxe, ils resteraient rivés sur leur écran. Et mon invité du jour, Salomé Sacquet, que vous devez connaître, mais si vous ne la connaissez pas, vous devez absolument vous intéresser à elle, qui est journaliste, en particulier pour Blast, mais également pour France 5 et France Info, a écrit un livre pour changer de regard sur la jeunesse. Ça s'appelle « Sois jeune et tais-toi ». Ça sort aux éditions Payot, et c'est un ouvrage extrêmement documenté, extrêmement chiffré, pour lequel Salomé est allé voir une multitude de jeunes de multiples univers, pour essayer de comprendre ce que c'est que la réalité de la jeunesse aujourd'hui. Et comprendre, et c'est tout le sens de notre conversation, pourquoi c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être jeune que ça ne l'était quand moi je l'étais, donc il y a une vingtaine d'années. Et encore plus pour ceux qui sont peut-être plus vieux que moi. Je vous laisse écouter cette conversation qui est passionnante. J'espère qu'elle vous plaira. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Salomé.
Bonjour.
Ça va aujourd'hui?
Ça va et toi?
Ça va pas mal, merci beaucoup. Je voudrais commencer cette discussion par une citation que je vais te lire, qui est « Nos jeunes aiment le luxe, ont des mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. » Et en fait, c'est une citation de Socrate. Donc en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi il existe toujours un conflit de génération entre les plus vieux et les plus jeunes.
Oui, c'est vrai qu'en faisant mes recherches sur le sujet, j'ai été assez étonnée de retrouver des citations jusqu'à l'Antiquité, où déjà, on critiquait les jeunes, et c'est un truc qui perdure au fil des siècles, où les jeunes ne sont jamais assez bien. J'ai essayé d'apporter un début d'explication à ça dans mon livre, en expliquant qu'il y a un phénomène presque cognitif, où on a tendance à idéaliser nos souvenirs et à idéaliser donc notre propre jeunesse. C'est presque un réflexe. Et à ne garder que quelques éléments, parce qu'évidemment, les souvenirs sont par essence subjectifs, déformés, pas forcément complètement conformes à la réalité. Et donc, on compare les jeunes d'aujourd'hui à une jeunesse qui, en réalité, n'a probablement pas existé, qui est une jeunesse idéalisée et qui est aussi souvent, pour beaucoup de gens, une belle période de leur vie. Et donc forcément, les jeunes d'aujourd'hui perdent à cette comparaison. Et après, parce que tout simplement, les générations n'ont pas les mêmes habitudes nécessairement, n'ont pas forcément la même culture. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, en plus, ça s'intensifie, où on a vraiment des jeunes qui développent une culture propre, qui développent d'autres habitudes, qui vraiment vont avoir un mode de vie qui peut être très différent de celui de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc forcément, ça crée une rupture, ça crée des différences. Et parfois, les générations précédentes ne peuvent pas forcément comprendre et voient souvent d'un mauvais œil ces nouvelles habitudes de vie qui ne sont tout simplement pas les leurs. Mais voilà, c'est vrai que ça dure depuis longtemps, cette histoire.
C'est marrant, ça me fait un peu penser ce que tu dis à le fameux « c'était mieux avant », tu sais, qu'on retrouve beaucoup dans les valeurs traditionnelles de l'extrême droite. Oui. Mais en fait, il se réfère à aucun avant, parce que la période dorée à laquelle ils font référence, elle n'existe pas.
Ah, totalement.
C'est très étrange.
Bah, tu parles de l'extrême droite, on le voit bien dans le clip de Zemmour, où il avait mis des extraits où il y a vraiment, c'est vraiment une France complètement fantasmée des années 50, 60, 70, où il a retenu que quelques éléments de culture, de sport, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, d'histoire, et en réalité, ça ne reflète absolument pas la complexité d'une société à un moment donné. Et évidemment, quand on dit c'était mieux avant, il y a aussi beaucoup de ça. Et on oublie, ils se disent, on dit souvent les jeunes c'était mieux avant, et on oublie aussi que peut-être le contexte
l'était
aussi peut-être un peu mieux aussi à certains égards pour les jeunes.
C'est clair. Et tu dirais que c'est pire aujourd'hui ou que ça a toujours été, enfin tu vois, est-ce que c'est pire aujourd'hui, est-ce que c'est pire en France? C'est deux questions différentes.
Le conflit de génération?
Ouais, le conflit de génération.
C'est une bonne question. Elle m'a traversée pendant toute l'écriture. J'ai essayé de me demander est-ce que finalement ce que je suis en train d'écrire, c'est pas un espèce d'énorme poncif d'un truc qui a toujours existé. Non, mais je me suis vraiment beaucoup posé la question. Mais non, mais surtout quand on regarde, voilà, mai 68, où il y a eu des gros conflits, des clashs de génération. Et déjà, même est-ce que aujourd'hui il y a un conflit de génération, c'était une question à laquelle il était difficile de répondre parce que de la société est très complexe et qu'il y a plein de personnes âgées qui ne sont pas du tout hostiles à l'égard des jeunes, heureusement, et il y a plein de jeunes qui n'aiment pas les jeunes non plus. C'est pas du tout uniforme, c'est pas du tout tous les vieux détestent les jeunes et les jeunes détestent les vieux, c'est pas du tout ça. En revanche, je pense qu'il y a un mouvement actuel d'incompréhension entre les générations à bien des égards. Et encore une fois, je parle d'une tendance globale. Je parle aussi d'un ressenti subjectif, parce que moi, j'ai 27 ans. J'ai longtemps quand même eu l'impression, et j'ai toujours l'impression de ressentir une forme d'incompréhension, d'hostilité à mon égard de la part de générations précédentes, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans mon univers professionnel. Et au fur et à mesure des discussions, en parlant avec beaucoup de jeunes autour de moi, en regardant aussi les statistiques, en regardant les études sociologiques, voilà, j'en suis venue à la conclusion que oui, il y avait quand même une forme de conflit de génération. Encore une fois, qu'on peut discuter sur ça, sur son ampleur, sur sa forme, sur est-ce qu'il est immuable. Mais en tout cas, pour moi, il y a clairement une rupture, c'est mon analyse après toutes ces recherches, en tout cas, entre la génération notamment dite des boomers et les générations qui aujourd'hui ont une vingtaine d'années. Et ça, ça passe par plein de choses dont on va sûrement parler dans ce podcast.
Ouais, clairement. D'ailleurs, une question bête, mais que je ne t'ai pas posée pour commencer, c'est quoi un jeune pour toi ?
C'était pareil, très grande question. Déjà, je me suis dit, est-ce que je suis encore jeune ? Parce que j'ai eu l'idée du livre, j'avais 24 ans.
Ouais.
Après, j'avais 27 ans, au moment de 26, 27 ans, je me disais, est-ce que je suis encore jeune ? Est-ce que j'arrive à la limite ? Et évidemment, il n'y a pas de définition parfaite de la jeunesse. Pierre Bourdieu disait « la jeunesse n'est qu'un mot ». Je pense que c'est évidemment très, très juste. Il a bien fallu poser un cadre, en revanche, pour écrire cet ouvrage. Donc, j'ai choisi de me référer aux statistiques de l'INSEE. Mm-hmm. Et l'INSEE définit la jeunesse de 18 à 29 ans. Donc, j'avoue, ça m'arrangeait parce que je pouvais être dans la jeunesse. Donc, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi aussi. Non, parce que l'INSEE, c'est les chiffres de l'INSEE, donc l'Institut National des Études Statistiques. C'était vraiment ma base d'économie, enfin de là, ce sur quoi je me suis basée pour trouver plein de chiffres et de comparaisons entre les générations. Donc comme je m'appuyais là-dessus, je me suis dit je vais prendre leur définition à eux. Eux ils disent c'est 18-29 ans, mais encore une fois, bien sûr qu'on peut avoir plus de 29 ans et naître plus jeune. Mais je pense que c'est, moi je le définis plus philosophiquement comme ce moment d'incertitude où on est encore en train de se chercher, on est encore de se trouver, on n'est pas encore dans un, notamment dans le cadre de tout ce qui est vie professionnelle, dans quelque chose de ça y est, on est sur le chemin et on est. Pour moi, la jeunesse commence à entre guillemets s'arrêter, c'est ma vision, hein, mais à partir du moment où on a un prêt, un appartement, un travail stable, un CDI, un conjoint, enfin qu'on a cette espèce d'entrée dans la vie plus stable. Et la jeunesse, c'est ce moment pour moi de quête, de recherche d'instabilité.
C'est marrant, les gens de mon âge ont dit non, mais la jeunesse, c'est dans la tête.
Non, mais oui, alors j'avoue qu'il y a un truc, peut-être que je dirais ça à 40 ans, tu vois.
C'est très possible.
Mais non, mais après, je veux pas mettre de. Évidemment, je pense que cette histoire d'instabilité, elle peut durer parfois jusqu'à 40 ans. Donc, il n'y a pas un groupe parfait avec des délimitations dans lequel on pourrait mettre la jeunesse. Mais quand même, à un moment, il faut poser un cadre. Je pense qu'à 40 ans, c'est quand même chaud de se dire qu'on est la jeunesse de France. Mais bon, je dis
non,
ça comme ça.
Mais non, mais
je vais mettre tous les quarantenaires à dos. Là. C'est mon plan.
Au revoir. Une question que je me pose, et quelque chose qui a vraiment changé dans l'univers médiatique, c'est la binarisation de l'information. Et justement, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est, j'essaie de ne pas être binaire, justement. Tu vois, tu dis, oui, alors en fait, il y a des nuances, etc., etc. Est-ce que tu crois que les difficultés, peut-être, de la discussion entre les générations, c'est justement cette binarisation de l'info? Tu vois ce que je veux dire?
Binarisation, dans quel sens ? Dans le sens où, en fait, c'est une IDA contre une IDB et qu'il n'y a plus rien au milieu.
Exactement. C'est ce qu'on voit un peu partout en politique, ce qu'on voit sur beaucoup de sujets. Ça se binarise à mort, en fait.
C'est vrai qu'il y a une transformation, alors là, qu'on ne peut pas nier, des modes d'informer depuis les années 2000, notamment avec l'irruption. Moi, je vois deux choses, l'irruption d'Internet et l'irruption des chaînes d'information en continu qui vont un peu dans cette même idée de on réduit toujours plus le temps d'information, on en fait des sujets toujours, il faut que ce soit toujours plus accrocheur, on se dispute toujours plus votre temps d'attention et donc la nuance n'est pas vendeuse et donc on va toujours plus enlever de la nuance en fait. Enfin, c'est une forme de simplification à outrance qui amène, je pense, à effectivement une. Peut-être ça se fait parfois, sur beaucoup de sujets, mais ça se fait aussi au détriment de la jeunesse et ça se fait aussi au détriment de la manière dont on va traiter médiatiquement les jeunes. Et donc, c'est dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai pu trouver pléthore d'articles, d'extraits télévisés où en fait, on a une manière de parler des jeunes qui est hyper simpliste.
Simpliste, ouais.
Et pas du tout juste et pas du tout assez complexe. Et on va, pendant le Covid, on va leur taper dessus parce que c'est ces jeunes qui ne respectent pas... qui ne protègent pas les plus âgés. Ces jeunes, on a beaucoup tapé sur les étudiants qui feraient des soirées. Il y avait vraiment cette... cette notion de jeunesse un peu irresponsable. Et après, on peut avoir d'autres clichés. Il y a beaucoup de clichés, en fait, sur la jeunesse délinquante, des banlieues, où on va y aller. Mais ouais. C'est bien sûr que si, il doit y en avoir, mais c'est souvent avec peu de nuances. Et ça véhicule des idées qui, à mes yeux, après... sont délétères. Et après, il y a aussi toutes ces idées de les jeunes ne lisent plus, les jeunes sont narcissiques, ils sont égocentrés, ils sont accros aux écrans. On va beaucoup avoir de reportages sur les dérives de cette jeunesse, TikTok. Au final, c'est quand même très négatif. Et ça manque complètement de nuances. Je pense que le sujet TikTok que j'aborde à un moment, il illustre très bien ce phénomène. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que blanc ou noir. Et oui, il y a évidemment des dérives qui doivent être illustrées, des problèmes que crée ce réseau. Mais il y a aussi d'autres bonnes choses. C'est aussi un espace de créativité. C'est aussi un espace de communication entre les jeunes. Et en fait, on peut pas juste traiter un truc en disant c'est bien, c'est mal. C'est plus complexe que ça. Et je trouve que la jeunesse, en particulier les objets aussi de consommation de la jeunesse, de tout ce qui touche à la jeunesse, on a une telle incompréhension de ça qu'il y a un traitement médiatique qui a tendance à être très binaire et souvent peu juste.
Pour toi, c'est quoi les challenges des jeunes aujourd'hui ? Parce que, qu'est-ce que peut-être les personnes de mon âge ou peut-être plus âgées ne comprennent pas ?
Je pense qu'il y a un challenge avant tout économique, qui est qu'on est dans un climat d'incertitude économique. Il y a une augmentation du chômage, il y a une précarisation des emplois que vraiment je décris avec beaucoup de chiffres et qui est très très nette. On a des emplois qui sont de plus en plus mal payés et qui sont de plus en plus précaires au sens où ils sont instables. Donc, les politiques actuelles, notamment d'Emmanuel Macron, vont totalement dans ce sens où on va favoriser le stage, l'apprentissage, le CDD, tous ces emplois, l'intérim, qui font qu'on n'est jamais, on ne sait jamais exactement où on va, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir rester. On est dans un contexte de chômage de masse et où donc on a peur.
Il y a moins de chômage aujourd'hui quand même qu'avant, non ?
Il y en a eu un tout petit peu moins, mais en fait, ça se fait de toute façon au détriment de la qualité des emplois. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites 3 heures d'intérim, vous n'êtes pas compté dans les chiffres du chômage, mais vous avez quand même un gros problème. Les stages non plus ne sont pas comptés dans les chiffres du chômage. Aujourd'hui, quand on est stagiaire, c'est 500 euros, je ne sais plus quel chiffre.
C'est 600,
ça a été augmenté, non, ça a été augmenté avec le...
C'est assez faible, hein, dans l'absolu.
C'est pas du tout assez pour vivre. Donc, on a besoin d'un emploi à côté, ou d'une aide parentale, ou d'aide de l'État. Et donc, en fait, il y a tous ces jeunes... qui sont les premiers abonnés à ces emplois-là, qui sont balancés sur un marché de l'emploi où certes, il y a quand même, quand même beaucoup de millions de chômeurs, et qui sont dans ce stress de savoir s'ils vont avoir du travail, et ensuite, quel travail ils vont avoir. Et est-ce qu'ils sont dans la bonne voie ? Et là, on vient à un autre problème qui est quand même, pour moi, ce qui ressort le plus quand je demande aux jeunes quelles sont vos inquiétudes, s'ils sont en études, s'ils sont en train de se chercher professionnellement, en fait, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, dans quoi ils vont aller. Et ça les stresse énormément parce qu'il y a des plateformes comme Parcoursup aujourd'hui. Je pense que n'importe qui est parent de lycéens a expérimenté ça. Où c'est extrêmement stressant. On ne sait pas pourquoi, ni où, ni comment. C'est une plateforme qui décide littéralement de votre avenir. C'est très compliqué d'y accéder par d'autres moyens, si ce n'est les écoles privées. Donc, je reviens, donc on est toujours dans un truc de plus en plus illégalitaire. Mmh. Et donc, pour beaucoup de jeunes, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire, comment, et si je sais ce que je veux faire, ce qui n'est pas le cas de tous, est-ce qu'on va m'accepter ? Est-ce que je vais avoir accès aux études dont j'ai envie ? Est-ce que je vais y arriver ? Et ensuite, est-ce que je vais trouver du travail dans ce domaine ? Et ça fait beaucoup, beaucoup de questionnements, beaucoup de stress qui ont été amplifiés, notamment par la période Covid, qui a été très, très dure à vivre pour beaucoup de jeunes. Et donc ça, déjà, entre les études et la situation économique, et j'oubliais bien sûr la précarité, qui touche vraiment des millions de jeunes et qui est... Les jeunes sont les premiers précaires en France. Il y a bien plus de précarité chez les jeunes que chez les plus âgés. C'est qu'en plus, il faut gérer qu'est-ce que je vais manger, pour certains. Est-ce que je vais avoir assez pour payer mon appartement ? Est-ce que... pour des trucs extrêmement simples, j'ai eu beaucoup de témoignages de jeunes qui m'expliquaient qu'ils vendaient leurs meubles pour pouvoir payer leurs factures, qui sont vraiment à l'euro près. Et donc là, on est dans une situation d'inflation. C'est absolument dramatique pour beaucoup de jeunes. Donc ça, c'est le premier volet qui est le volet économique entre guillemets.
Alors attends, avant de rester, on va rester sur la partie économique et après on ira sur les autres, mais excuse-moi, je te coupe, mais sur la partie économique, ce que je te disais tout à l'heure, et moi je vois bien, parce qu'il y a 19 ans, quand j'avais ton âge précisément, j'ai acheté un appartement et ça m'a coûté à Paris, bon à Château-Rouge, mais à Paris quand même 3 500 € du mètre, et c'était il y a donc 19 ans. Et aujourd'hui, et moi mon salaire à l'époque, donc je sortais d'école de commerce et c'était 30 000 € par an. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que bah, le salaire sorti d'école, il est globalement toujours à 30 000 € par an, hein, peut-être 35, mais enfin pas beaucoup plus. Et je parle déjà de bac plus 5, enfin je veux dire, c'est pas des... Et sauf que le montant des appartements, c'est pas du tout 3 500 € du mètre. À 3 500 € du mètre à Paris, enfin à moins d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, enfin ça n'existe pas. C'est plutôt autour de 10 ou 12 000. Et je te parle pas du 6e, évidemment. Vraiment en restant à Château-Rouge. Et ça aussi, c'est, économiquement, c'est ingérable, en fait.
En fait, pour moi, c'est la plus grande injustice. C'est une des plus grandes injustices. C'est vraiment les inégalités de patrimoine entre les plus âgés et les plus jeunes. Et là, les chiffres sont absolument accablants. Tu parles du prix du mètre carré. En France, depuis 1995, le prix du mètre carré a triplé. Et à Paris, il est 5 fois supérieur. Donc, en fait, évidemment, on peut pas... C'est comme, je dis, c'est comme arriver dans une partie de Monopoly au 10e tour. Ouais. On peut pas gagner. C'est pas possible. Et on est, à part si on a hérité. Et donc, en fait, c'est le titre d'un de mes chapitres. Je dis, il vaut mieux hériter que mériter. Et ça, c'est particulièrement frappant et indéniable, en fait. Enfin, c'est indiscutable quand on voit les chiffres. En 2021, près de 45% des multipropriétaires immobiliers ont plus de 60 ans. Et le ratio passe à 70% lorsqu'on ajoute les cinquantenaires. Donc, les gens qui détiennent l'immobilier en France, ce sont des personnes âgées. Et c'est, voilà, c'est absolument indéniable. Et on voit la part de patrimoine. Et là, on pourrait se dire, bon, c'est parce qu'eux, ils vont en avoir plus tard. Avant, il y avait la possibilité davantage de se, entre guillemets, faire tout seul, c'est-à-dire d'investir au bon moment, de faire ce qu'on peut. Voilà, c'est là où il y a une incompréhension. Les vieux vont nous dire, mais oui, mais moi j'ai investi, moi j'ai fait ça. Mais oui, mais vous, déjà, d'ailleurs, vous pouviez investir. Vous aviez un pouvoir d'achat qui vous permettait d'accéder à de l'immobilier quand vous étiez un couple d'ouvriers. Il y avait plus de CDI. Enfin voilà, la situation économique était quand même meilleure. Et ensuite, vous pouviez bénéficier de cette inflation, de cette augmentation des prix de l'immobilier. Et donc, à la fin, vous arrivez à 60 ans et vous avez gagné, entre guillemets, de l'argent.
Exactement.
Aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'époque, dans les années 70, la part de patrimoine, c'est-à-dire dans ce que vous détenez, ce que vous avez hérité, ce que vous avez fait, c'était environ 30% que vous alliez avoir hérité, 70% vous allez le faire. Aujourd'hui, ça a doublé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% de ce que vous possédez, c'est ce que vous avez hérité. Et donc, en réalité, quand on nous dit « oui, mais investissez, faites bien et tout », non, non, ce qui va déterminer si vous allez détenir de l'immobilier ou non, si vous allez avoir une bonne situation financière ou non, c'est en grande partie votre héritage. Et ça, on le dit trop peu. Et c'est très frustrant pour des jeunes, dont moi je fais partie, par exemple, qui débarquent, qui n'ont pas d'héritage. Qui n'ont pas, oui, non, mais qui n'ont pas, et qui ont pourtant, moi j'ai joué le jeu de la méritocratie, j'ai fait la prépa, les écoles, les bonnes études, les masters, les machins, le sans faute, en étant boursière, en faisant tout bien, comme on dit de le faire. Non, mais voilà. Et en fait, je me retrouve avec pourtant une situation financière pas si catastrophique et dans l'impossibilité totale d'acheter. Et dans l'impossibilité totale de... Mais quand je dis acheter, on parle de 15 mètres carrés hein, à Paris. Hein, donc je ne cherche pas à acheter un truc de fou. Hein, je ne demande pas un palace. Et c'est là où je l'ai vécu personnellement, en me disant, mais c'est quand même dingue d'arriver. C'est en CDI. Donc,
j'ai toutes les cases.
Je suis jeune, je coche tout, mais non, je ne peux pas acheter même 15 mètres carrés. Et en fait, il y a énormément de jeunes qui se retrouvent dans cette position et c'est particulièrement frustrant parfois entendre des plus âgés qui vont nous dire « Oui, mais moi, tu sais, à ton âge,
je me suis bougé. »
Mais non, mais en fait, on aura beau se bouger tout ce qu'on veut, pour beaucoup d'entre nous, c'est juste, c'est impossible. On est arrivé trop tard dans la partie de Monopoly.
Tu penses quoi de l'égalité des chances, d'ailleurs ? On va parler de... Enfin, je reste sur la partie économique parce que c'est une grosse partie quand même. Tu penses... Parce qu'on parle en France de l'égalité des chances, de la méritocratie, on va y revenir ensuite aussi, mais d'abord l'égalité des chances aujourd'hui en France. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que finalement... s'il n'y a pas d'héritage, et en fait c'est ce qu'on reproche d'ailleurs au modèle français, c'est-à-dire que même si l'héritage est taxé, la réalité c'est que une grosse partie une grosse partie de la réalité financière des gens, c'est l'héritage.
Complètement. Non mais il y a Bon, après, c'est pas moi qui ai inventé Bourdieu, tout ça, non, le capital économique, culturel, social. L'égalité parfaite n'a jamais existé. Je pense en revanche qu'elle est de plus en plus attaquée et que c'est. En fait, ça fait beaucoup de mal aux jeunes qu'on leur fasse croire qu'on est dans une forme de méritocratie. Enfin, je pense, hein, pour ceux qui n'y arrivent pas. Et parfois, on se rend compte que c'est pas les plus. Alors, on pourrait discuter de ce qu'est le mérite, mais c'est pas ceux qui ont forcément le plus travaillé, c'est pas forcément ceux qui sont les plus motivés qui vont y arriver, c'est surtout ceux qui ont le bon capital de départ. Et ça, on le voit, par exemple, particulièrement avec l'essor des écoles privées, où j'explique que les chiffres d'affaires sont absolument délirants. D'année en année, on a une explosion en France des écoles privées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de place dans le public, parce qu'il y a des gros problèmes dans l'éducation nationale, parce qu'on n'a pas arrêté de faire des coupes. Là, je parle des politiques, encore une fois, d'Emmanuel Macron. Je parle pas mal de Macron. C'est pas une obsession, c'est non, juste que c'est moi j'ai commencé, aussi. C'est ça, j'ai commencé à être journaliste l'année où il a été élu. Et donc j'ai suivi de près son mandat et ses politiques. Et il a notamment réduit le budget par étudiant. C'est-à-dire que le budget global va pas forcément être réduit, mais le budget par étudiant, si. Donc en fait, les étudiants bénéficient de conditions de travail de plus en plus difficiles. Encore une fois, avec une insertion sur le marché de l'emploi toujours plus compliquée. Et à côté de ça, les écoles privées se frottent les mains et se disent, puisqu'il n'y a pas assez de place et qu'il y a beaucoup de déçus, notamment avec des plateformes comme Parcoursup, nous, on vous accueille sans passer par ça. Par contre, il va falloir payer. Et là, qui c'est qui y va ? Ce sont les héritiers, ou ce sont ceux qui vont faire des prêts, qui vont se trimballer, qui vont parfois pas pouvoir rembourser, ou ça va être très compliqué. Mais dans l'ensemble, ça, c'est pas égalitaire. Il y a un deuxième phénomène, c'est celui des cours privés, dont je parle beaucoup, qui est, si on reste sur quelque chose de purement scolaire, on estime à entre 1,5 et 2 milliards d'euros le chiffre d'affaires des cours particuliers. Qui va payer des cours particuliers ? Eh bien, on retrouve encore une fois dans les mêmes. Enfin, c'est dans des chiffres, je crois, c'est les chiffres du Centre d'analyse stratégique, le prédécesseur de France Stratégie, qui expliquait que, en fait, ceux qui y ont le plus recours, ce sont les enfants de professions libérales, de cadres, donc de milieux aisés. Et en fait, on en revient toujours à ce truc de, on vous dit, vas-y, mais en fait, non, déjà, la qualité de votre établissement va dépendre aussi de votre secteur, de votre territoire. Et ensuite, vous avez des aides, des écoles privées, des cours particuliers, des aides sociales, un capital culturel qui vont faire que quand on vous dit, non, c'est juste la méritocratie, l'école républicaine, c'est pas vrai. Et il y a plein de jeunes qui ne s'en sortent pas. Et là, j'ai vraiment rencontré des jeunes avec qui j'ai discuté de ça, et c'est terrible, parce qu'en plus, on leur fait porter le poids de la culpabilité de leur échec, alors qu'ils n'en sont en grande partie pas responsables. Je dis pas que, bien sûr, il y a toujours une part d'individualité, mais il y a beaucoup de... Et c'est après, on a ces fameux, ce que je trouve très dangereux, c'est ces figures de transclasse, où on va dire, vous... Regardez cette personne-là, on va en faire médiatiquement, on adore ça, on adore. Le récit de l'enfant d'ouvrier qui... qui est arrivé. Et en fait, ils sont tellement minoritaires qu'on en fait des exemples. Et on dit à tous les autres, en fait, si vous réussissez pas, c'est pas parce que vous venez d'un milieu défavorisé et que tous les paramètres sont contre vous, c'est parce que vous ne le voulez pas assez. Et je pense que... Enfin, c'est ce que j'essaie de déconstruire un peu dans ce livre, c'est ce mythe méritocratique. Je pense qu'il fait du mal. Il fait du mal aux jeunes et il fait aussi du mal aux personnes âgées qui comprennent pas ce que vivent les jeunes.
D'ailleurs, en parlant d'ascenseur social, je ne sais plus si c'est dans ton livre ou si je l'ai rajouté dans mes notes. Tu vois cette citation de Rosemary Lagrave ?
Non.
C'est dans tes notes ? C'est pas dans le livre, alors je te la cite. Il n'y a pas d'ascenseur social, les transfuges de classe prennent l'escalier de service.
Ouais, c'est exactement ça. Je suis totalement d'accord. C'est exactement ça. C'est pour ça que moi, je fais très attention avec les récits de transfuges de classe, parce qu'ils sont tellement minoritaires. Il y a aussi des facteurs de chance, il y a aussi des facteurs de plein de choses. Et on ne peut pas en faire quelque chose de systémique. Et je pense qu'il faudrait réformer sacrément notre système éducatif pour pouvoir permettre aux jeunes qui le souhaitent ou qui le veulent d'accéder en fait à toutes les études qu'ils veulent ou les voies professionnelles. Et j'en ai même pas parlé, mais évidemment la précarité quand on est étudiant, on a je sais plus quel chiffre, mais c'est 40% il me semble des étudiants qui travaillent à côté de leurs études. Ces étudiants là pendant qu'ils travaillent, c'est épuisant, ça change tout de travailler à côté de ses études, surtout quand on fait des études exigeantes où on n'a pas le temps. Alors déjà, on n'a pas le temps intellectuel, l'énergie pour pouvoir se consacrer pleinement à ses études, mais on n'a pas également le même temps associatif, le même temps de là où on va se faire un réseau, où on va pouvoir peut-être faire des stages à côté. Et ça change absolument tout, ce capital économique de base, et aussi les bonnes relations avec les parents.
Bien sûr. Et tu sais, pour moi, le pire dans tout ça, c'est que ces gens qui sont en haut de l'échelle, ils croient dans le concept du self-made man ou self-made woman. Terrible. C'est-à-dire qu'en fait, ils croient vraiment, sincèrement, qu'ils se sont faits par eux-mêmes. C'est très bizarre. Enfin, pas tous, heureusement.
Non, c'est fascinant. Ça me fascine.
Ça, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont nés en France, sans doute dans une bonne famille, sans doute avec des conditions sociales, voilà, qui faisaient qu'ils avaient les bouquins, ils avaient la culture, ils avaient les conditions. Et en fait, ils le mettent tout ça de côté et ils disent bah, attends, moi, j'ai réussi à le faire, pourquoi tu n'y arrives pas?
Ah non, mais c'est exactement ça. Puis on a souvent, les gens ne se rendent pas compte de l'importance même de leur milieu social. C'est-à-dire que parfois, ils n'appartiennent pas à la très haute bourgeoisie. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, d'avoir deux parents en CDI qui gagnent, je ne sais pas, 3 000 euros chacun, ou d'avoir des parents chercheurs, ou d'avoir... Eh ben, en fait, c'est déjà énorme. Mmh. Et c'est déjà être bien au-dessus de la moyenne. Et eux, ils ont l'impression sincère, parfois, des transfuges de classe et tout ça. Et ce n'est pas le cas du tout. Et donc, ça crée une grosse incompréhension des jeunes, et pas que, en fait, parce que ce phénomène n'est pas nouveau non plus. Et de manière générale, on gagnerait à plus essayer de comprendre les inégalités et les phénomènes d'inégalité en France.
Alors, on a parlé de la partie économique, et je t'ai coupé.
Oui.
Parce qu'en fait, il y a d'autres inégalités. Enfin, les grosses problématiques des jeunes, il y a celle-là, et il y a quoi d'autre?
Je parle de l'économie en premier, parce que pour moi, c'est le truc le plus tangible, c'est le plus concret, c'est surtout ce dont parle la plupart des jeunes en premier. Cette incertitude sur leur destin personnel, sur leur économie, sur leur travail futur ou présent. Et donc voilà, ça c'est la partie quand même, pour moi, qui est la plus prégnante. Et ensuite, il y a une espèce d'incertitude et de pessimisme lié au contexte, notamment lié à l'écologie, qui a un peu l'éléphant dans la pièce quand on parle d'incertitude. Et là, il y a une rupture générationnelle majeure, absolument majeure pour moi, qui illustre encore parfaitement le phénomène de rupture générationnelle. C'est qu'on sait qu'on va vivre sur une planète qui va être difficilement habitable, voire inhabitable. Et on a beau ne pas être expert en écologie, on a beau avoir des élèves de 18 ans qui sont pas forcément, qui n'ont pas lu les rapports du GIEC, qui ne sont pas des experts en la matière, mais ils savent très bien que leur avenir ne va pas être lumineux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé dans l'intégralité des interviews, y compris des enfants de milieux privilégiés, y compris des enfants qui... Enfin, des enfants, des ados, jeunes, quoi, qui vont vous dire que globalement, ils s'en foutent un peu. Enfin, ils vont afficher une forme de détachement. Si vous leur demandez est-ce que ça vous inquiète, 100%, 1000% vont répondre oui. J'ai pas interrogé tous les jeunes de France, mais quand même, globalement, ça les inquiète. Et on le retrouve dans les études statistiques où il me semble que c'est les études d'Anne Muxel qui disent que c'est 86%, chiffre à vérifier, mais 86% des jeunes qui sont inquiets par ça. Et en fait, faudrait être fou pour pas être inquiet. Et là, on voit qu'il y a une rupture dans les sondages. Les plus âgés sont moins inquiets. Surprise, parce que eux, ils
savent.
C'est
étonnant. Hein.
Non, mais c'est fou, parce que même en n'étant pas informé, enfin, je veux dire, moi, je fais des trucs de climat toute la journée, donc évidemment que je sais que j'ai de quoi être inquiète. Mais même ceux qui sont pas les plus informés chez les jeunes, vraiment, ça crée une espèce d'anxiété de fond où c'est très compliqué de se projeter dans l'avenir dans ces conditions, parce qu'ils peuvent aussi voir d'eux-mêmes les conséquences du réchauffement climatique, enfin par eux-mêmes, ne serait-ce que l'été dernier. On voit qu'on vit dans un monde où on nous parle de restrictions d'énergie. Là, pour cet hiver, pour l'instant, on a eu de la chance, ça n'a pas été trop froid, mais on a failli ne pas avoir d'énergie. Là, on parle de restrictions d'eau. Il y a déjà 100 villages en France qui ont été privés d'eau potable l'année dernière. Il y a eu des incendies monstrueux. C'est des choses. Il y a des inondations de plus en plus importantes dans le sud de la France. On sait que ça va ne faire que s'intensifier. Et c'est des choses qui sont extrêmement tangibles. Et donc, quand on est jeune, on voit bien que là, ça, a priori, ça n'augure rien de bon et que ça fait quand même un peu flipper. Et donc, il suffit d'allumer la télé, il suffit d'aller voir n'importe quel compte Insta un peu sur le sujet, ou même sur TikTok, on a de plus en plus de contenu là-dessus. Ça crée une espèce d'angoisse de fond où, en fonction du niveau d'information, les jeunes vont être plus ou moins inquiets, mais globalement, ils le sont. Et ce qui est flippant, c'est pas tant le réchauffement climatique que le constat de l'inaction de ceux qui sont aux manettes. C'est-à-dire que, bon, les jeunes, voilà, ils ont 20 ans, 18 ans, même 25 ans, ils sont là, oui, bon, bah, ça fait peur, mais moi, je ne suis pas décideur, je ne suis pas aux manettes d'une entreprise, je ne suis pas dans les gens qui décident, à part, évidemment, si ce n'est par le vote. Et on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais en fait, on a juste l'impression d'être dans un bateau où les gens qui sont aux commandes sont devenus complètement fous et sont en train de nous emmener, mais malgré nous, parce qu'en fait, nous, on est les jeunes voilà, passagers à l'arrière, sont en train de nous faire foncer dans un mur ou dans un iceberg. Je file la métaphore. Non, mais c'est ça. Et qu'on peut rien faire. Et c'est ça qui fait peur. C'est que là, et c'est là où on a une rupture générationnelle, c'est qu'on va en parler parfois des plus âgés autour de nous qui vont être là, mais ouais, mais tranquille, moi, je fais ce que je veux, je mange ma viande, ça va, les écolos nous font chier. Et c'est pas toutes les personnes âgées sont pas comme ça, non. Mais on a quand même, là pour le coup, médiatiquement, un discours qui a été dominant pendant longtemps, clairement. Qui était comme ça, qui est en train de doucement changer, mais on n'y est pas encore. On a clairement les décideurs politiques, là c'est moi, ça me fait faire des crises d'angoisse pendant la nuit, enfin je veux dire vraiment, de voir, de constater le c'est même plus d'irresponsabilité, là c'est hallucinant qu'ils agissent pas à ce point.
Je crois qu'ils ont un autre logiciel en tête, en fait, vraiment, hein.
Ils peuvent pas ne pas savoir.
Non, ils savent, mais ils ont un autre logiciel en tête.
Ils ont les rapports du GIEC sur leur table. Il y a un haut conseil pour le climat. Ils savent ce qu'ils font et ils décident de le faire quand même. Et ça, quand on est jeune, c'est pas rassurant. Et encore une fois, on se dirait, il y a un gros problème, mais les adultes gèrent. Ce serait un peu moins flippant. Mais là, on sait et on nous le dit. Mais vous, les jeunes, vous allez tout reconstruire, vous allez faire un... Voilà, alors ça, c'est les autres catégories. Enfin, je dis, il y a deux catégories. Il y a ceux qui critiquent les jeunes de manière débile, et après, il y a tous ceux qui vont nous dire « Ah, mais vous, cette génération merveilleuse qui va tout changer. » Mais en fait, non, on ne peut pas tout changer. C'est surtout pas. Enfin, ce sera trop tard. On a besoin qu'il y ait une action maintenant. Et nous, on a juste, pour certains, 20 ans. Et on est là, bah oui, s'il vous plaît, aidez-nous.
Déjà, les 20 prochaines années sont déjà décidées, puisque tu le sais mieux que moi, je pense, mais les gaz à effet de serre, en l'occurrence, il y a 20 ans de décalage entre les moments où ils sont émis et l'impact que ça a. Donc, les 20 prochaines années, elles sont déjà défini puisque ça ne fait qu'augmenter. Donc,
oui, bah on sait que dans tous les cas, ça va pas. Effectivement, voilà. Dans tous les cas, le changement climatique ne va pas s'arrêter demain. Et après, il y a toute la question des points de bascule. Il y a ces effets d'emballement où ça va. On sait que les catastrophes naturelles vont s'intensifier. Et encore une fois, ce qui fait peur, c'est que oui, ça va continuer, mais surtout qu'on n'est pas prêt. On n'a pas les aménagements. On n'a pas l'isolation des bâtiments. On n'est pas prêt pour faire face aux pénuries d'énergie. On n'est pas prêt pour faire face aux inondations dans le sud. Absolument pas prêt pour faire face aux canicules. On n'a pas du tout transformé notre agriculture pour se nourrir correctement, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et moi, ce que je veux faire avec ce livre, c'est un peu un appel, un énième appel, hein. Je ne suis pas la première à le faire, mais j'espère que peut-être ça changera un petit peu quelque chose, de dire, mais réveillez-vous, aidez-nous, vous ne pouvez pas nous sacrifier. Vous ne pouvez pas sacrifier, nous, les générations qui arrivent, en disant, ouais, non, mais nous, en fait, c'est trop difficile, désolé.
On aimerait bien vivre quand même.
Oui, non, mais on aimerait bien.
Nous, notre confort, on l'aime bien.
On parle quand même de vivre sur. On parle des conditions d'habitabilité de la planète qui sont menacées. Hein. C'est pas un petit truc, quoi. C'est tout ce qu'on connaît dans notre vie va être bouleversé. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on aime faire, toutes nos conditions premières pour vivre. Dont on a besoin pour vivre vont être altérés. Et quand on comprend ça, parfois c'est dur de ne pas en vouloir aux générations précédentes. C'est pas de ne pas avoir réagi plus tôt, parce qu'on a mis longtemps avant d'être vraiment informé. Il y a eu des grosses campagnes de désinformation. Donc j'entends. Moi, là où j'en veux aux personnes plus âgées, c'est de ne pas agir maintenant. Parce que maintenant, on sait. Franchement, vous savez. Donc là, c'est vraiment une solution de confort, une forme de lâcheté, de dire non, mais c'est pas trop mon problème. Moi, j'ai pas trop envie de m'en mêler. Mais en fait, là, on a besoin que vous vous en mêliez maintenant, que vous nous aidiez maintenant et que vous participiez à vous mobiliser maintenant pour que nous, on puisse avoir un futur un peu plus tard.
Tu crois, toi, tu parlais de ça d'ailleurs un petit peu, mais tu crois à la génération engagée ? Tu penses que tous les jeunes sont...
Non, bien sûr que non. Non, non, je pense que les jeunes ne sont... En tout cas, ceux que j'ai pu rencontrer sont globalement pas engagés. Faut pas rêver là-dessus. Mais c'est là où, encore une fois, j'y consacre tout un chapitre, enfin même plusieurs chapitres sur l'engagement des jeunes. Premièrement, il existe. C'est juste qu'il n'est pas majoritaire, mais il existe. Et ensuite, il existe par des formes très différentes de celles qu'ont pu connaître nos parents ou nos grands-parents. C'est-à-dire qu'il y a... Est-ce qu'on considère que c'est un engagement de boycotter un produit donné ? D'être sensibilisé à une cause en particulier, je pense aux Ouïghours par exemple, qui est une cause qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, qui a été partagée par des stars, des jeunes, et donc qui a créé une forme de sensibilité chez les jeunes qui vont plus facilement refuser d'acheter tel ou tel produit. Est-ce que parce qu'il y a des jeunes qui pour certains deviennent végétariens, mais à côté, bah, j'en sais rien, prennent l'avion, font des trucs, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont pas engagés ? Et en fait, on a en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, une forme d'engagement ponctuel ou partiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas des jeunes qui seraient globalement 100% militants, sans contradiction. Et non, c'est ça, quoi. En fait, on demanderait à cette jeunesse d'être parfaite, mais non, on a une jeunesse qui est engagée. Mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'elle ne l'est pas moins que les générations précédentes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais. Donc, ce mythe de, je pense à mai 68, où tous les jeunes auraient été super engagés, c'était pas vrai non plus. Et donc, oui, aujourd'hui, on n'a pas une jeunesse qui est organisée pour, politiquement, pour changer les choses et tout. Effectivement, c'est pas le cas, mais on a plein d'initiatives qui fleurissent. Et on a aussi plein de jeunes, par exemple, qui vont refuser de faire un certain travail, qui vont refuser de faire un travail qui n'est pas éthique. Alors après, à côté de ça, peut-être qu'ils vont acheter sur Amazon. Je dis pas que tout le monde est parfait. Mmh. Je dis juste que c'est des vrais actes de résistance, des actes de refus aussi d'obéir, de refus d'être dans cette, de parvenir dans cette, dans cette société-là, et qui sont à encourager à mes yeux, et qui constituent un vrai phénomène, au point que dans certaines entreprises, on commence à s'interroger sur comment on fait pour faire travailler ces jeunes-là, en fait, parce qu'ils ont une exigence d'éthique, ils ont une exigence parfois d'écologie. Mmh. Ça peut être une exigence de plus de temps aussi pour eux. Et pareil, moi, je m'interroge à un moment. Ça, pour le coup, c'est un vrai phénomène. Les jeunes ne veulent plus travailler, vivre pour travailler. Mmh. Et ça devient pour eux de plus en plus important d'avoir du temps pour eux. Est-ce que ça, c'est pas aussi une forme de résistance dans une société où tout nous pousse à ne pas être comme ça, qui est ultra capitaliste, qui nous pousse à la consommation, juste d'arriver à sa modeste échelle et de dire j'ai pas trop envie de, entre ces deux jobs et celui qui est peut-être moins bien payé, mais par contre où je vais avoir plus de temps pour moi, de choisir celui-ci. Est-ce que c'est pas déjà une forme d'engagement finalement et de, enfin, j'ai pas de réponse, hein, je lance des questions comme ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les jeunes sont concernés par ce qui se passe, et ça, c'est une certitude. Sont intéressés, encore une fois, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, ils vont pas regarder les JT de 20h tous les jours. Oui, ils vont pas lire Le Monde tous les jours. Mais par contre, globalement, les enjeux internationaux vont les intéresser. Les enjeux climatiques vont les intéresser, sans qu'ils soient experts, sans qu'ils soient. Mais ça va les inquiéter, en fait, surtout. Et ensuite, ils vont s'engager pour beaucoup ponctuellement, et ils ont une sensibilité. J'ai rencontré très peu de jeunes qui m'ont dit. Alors, il y en a une, notamment, il y a un exemple. Moi, je dis, alors, elle s'en fout complètement, elle achète tout. Elle l'assume très, très bien. Vraiment, elle ne veut pas s'engager dans rien et elle veut que faire son truc.
Elle est dans l'individualisme.
C'est complètement, mais c'est son choix, elle l'assume. Mais c'était pas le discours majoritaire que j'avais. Souvent, il y avait plus une espèce de forme d'impuissance sourde, de paralysie, de ça m'inquiète tellement et ça fait tellement peur que, moi, je fais un peu ce truc-là de pas acheter ça, mais globalement, je sais pas trop comment faire pour m'organiser. Et j'ai la sensation, et c'est aussi l'objet de ce livre, c'est que si les jeunes réalisaient à quel point ils sont nombreux à être dans ce cas-là, et à quel point ils pourraient aussi peut-être se coaliser, peut-être qu'ils pourraient valoriser d'autres formes d'engagement que la manifestation, que tous les trucs classiques, et peut-être qu'ils pourraient beaucoup plus s'engager. Et moi, évidemment, que j'invite les jeunes à l'engagement. Mais je pense qu'il y a un terreau. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un terreau pour cet engagement, qu'il existe déjà par plein d'aspects, et qu'il ne demande qu'à être développé.
En fait, dans ce que j'entends, je me dis, peut-être que je me trompe, mais j'ai la sensation que tu penses que la solution, entre guillemets, moi je pense pas qu'il y ait de solution, mais ça c'est une autre discussion, que ça va venir de la politique ou des politiques. Est-ce que tu penses que ça vient de là, ou comment tu envisages le truc ?
Je pense pas que la solution va venir des politiques. J'y crois pas. Je pense que c'est indispensable de passer par la politique à un moment. Qu'on peut pas juste dire les politiques c'est pourri machin, mais je pense que là, vu l'état actuel du paysage politique, vu les 5 ans qu'on a là avec les gens qui sont au pouvoir, la solution va pas venir du politique dans les 4 ans qui arrivent. Ça, j'en suis, oui, en France en tout cas.
On peut dire ça.
J'en suis absolument profondément convaincue. Donc là, je pense que ça doit venir de la société civile. On a besoin d'avoir des refus de masse, on a besoin d'avoir des gens qui se mobilisent absolument massivement face à ça. Et pour ça, je pense qu'il faut que les gens comprennent la gravité de la situation, et c'est un peu mon combat au quotidien en tant que journaliste. Et là, je parle pas que de la jeunesse, je parle vraiment en général de la montée des inégalités, de la montée de l'extrême droite, de la gravité folle et absolue de l'urgence écologique, et que quand les gens vont comprendre à quel point leur vie telle qu'ils la connaissent est menacée, et à quel point c'est imminent, et à quel point ça a même déjà commencé, je pense que ça va venir. Et que ces mouvements vont venir. On est obligé, on va être obligé de les avoir, en fait. C'est trop grave. Ce qui se passe est trop grave. Et, Et je pense que pour avoir ces mouvements de masse, c'est mieux si les générations sont unies au lieu de se taper dessus. Et que c'est aussi pour les générations futures qu'on fait ça. Et c'est pour ça que ça me tient tant à cœur de réhabiliter la jeunesse. Mais je pense qu'il faut absolument créer une mobilisation civile, peut-être différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, mais massive. Et puis bientôt. Enfin, on ne peut pas attendre 20 ans pour avoir une forme de révolution. Je ne parle pas du tout de révolution violente nécessairement, mais de révolution peut-être même dans nos modes de vie, par du boycott, je sais pas exactement, moi je suis pas une politique, donc je sais pas par quoi ça doit passer. Ce que je sais, c'est qu'on doit faire quelque chose et qu'on a tous une capacité à s'engager et qu'on n'a pas besoin d'être des experts, qu'on n'a pas besoin d'être un militant depuis des années, d'être activiste, d'être pour se mobiliser. Et on l'a vu par exemple avec les gilets jaunes. Enfin, il y a un moment, on est capable de descendre massivement dans la rue, on est capable de refuser massivement d'acheter quelque chose, on est capable de se mobiliser contre une réforme telle, ou donnée à un moment. Et donc, il faut juste que les gens se rendent compte de leur pouvoir et surtout de la nécessité de leur engagement. C'est-à-dire que là, chaque personne, ça va compter. Et c'est pas un discours militant de dire ça. C'est-à-dire que là, on a même des scientifiques, et j'ai fait un chapitre là-dessus aussi. Non, mais volontairement, parce que aujourd'hui, on a des scientifiques qui sont en train de basculer dans la désobéissance civile. Des scientifiques qui sont les personnes les moins politisées du monde à la base. Hein, et qui sont. La situation est tellement hallucinante, tellement grave, qu'il faudrait être fou pour ne pas se mobiliser. Et là encore, on revient à une critique de la jeunesse, les fameux jeunes qui vont bloquer des routes, les militants écolos. Alors là, pareil, qu'est-ce qu'on s'est éclaté dans les médias pour dire à quel point c'était des jeunes inconscients, des petits cons, en fait. C'est ça qu'on veut en faire.
En gros, c'est ça.
Ça l'image qu'on a donnée. C'est ça aussi la manière dont on les a traités quand ils ont été reçus sur les plateaux télé. Et je pense à Sacha de Dernière Rénovation, qui est donc une association qui milite pour qu'il y ait de la rénovation des bâtiments thermiques en France. Et donc, ils sont allés bloquer des routes. C'est des jeunes pour la plupart. Et elle, je l'ai vue sur des plateaux télé se faire traiter, mais d'une manière atroce. Elle a 21 ans, je ne sais plus quel âge elle a, mais elle est vraiment très jeune. Et on la voit, et alors elle a cette action de militantisme un peu qui pourrait être considérée comme extrême. Moi, je trouve que c'est même pas extrême au vu de la situation, mais bon, voilà, que certains peuvent discuter. Elle se fait traiter de tous les noms, tout ça. Et puis un jour, moi, je l'ai croisée sur le plateau d'Arrêt sur Image. Et j'étais un peu curieuse, quoi, de la voir. Et en fait, j'ai pas du tout vu une militante enragée, l'espèce de portrait qu'on avait fait d'elle. En fait, c'est une jeune femme terrifiée. Terrifiée. En fait, en discutant avec elle, c'est une évidence. C'est juste une jeune qui ne sait pas exactement quoi faire, qui sait juste que la situation est dramatique et qui veut agir. Et qui, du coup, sait tellement pas quoi faire qu'elle se lance dans une forme de militantisme parce que c'est ce qu'elle pense le plus juste à ce moment-là. Mmh. Et sur le plateau d'Arrêt sur Image, on lui a remis une séquence de Touche pas à mon poste où elle se fait traiter, mais comme la dernière des jeunes abrutis, quoi. C'est vraiment d'une violence folle.
Attends, Touche pas à mon poste. Hein.
Ouais, mais bon, oui, mais elle se dit qu'il faut aller partout pour parler. Et en fait, on pourrait se dire « Ah, cette petite conne, voilà, elle est bien contente. » Et en fait, elle, en revoyant ces images, elle a immédiatement les larmes qui lui sont montées aux yeux. Et moi, je l'avais en face de moi sur le plateau et ça m'a bouleversée de me dire elle est aussi le symbole, par certains aspects, de cette génération qui est juste terrifiée. Qui est juste terrifiée par ce qui se passe et par l'inaction et par la bêtise aussi de certaines personnes qui nous dirigent. Et je pense que, je ne sais plus où je voulais en venir, mais que ces jeunes-là, il faut les aider, il faut les respecter.
Et en même temps, quand je regarde le vote des jeunes, enfin, on a vu aux dernières présidentielles, il y en a plein qui vont vers l'extrême droite. C'est très étonnant. Enfin, ce n'est pas étonnant parce que j'arrive à le comprendre, hein, mais...
Plein, oui et non, parce que je reviens aussi dans le livre là-dessus. Le premier parti chez les jeunes, c'est l'abstention. Les jeunes, surtout, globalement, n'adhèrent pas à ce système, pour plein de raisons, parce qu'ils ne sont pas forcément bien informés sur le sujet, parce qu'on ne fait pas de politique à destination des jeunes. Donc en fait, il y a un moment où on ne vous parle pas, vous n'avez pas forcément envie d'aller voter, on ne parle pas de vos problématiques pendant les campagnes, on ne s'adresse pas à vous, les candidats sont vieux, il n'y a rien qui pousse les jeunes à la politique.
Macron, il est jeune.
Oui, alors, je dis, président des vieux, jeune président des vieux, quoi. Mais effectivement, il y a eu un espoir avec Macron. D'ailleurs, il y avait eu un vote des jeunes pour Macron, à l'époque, qui là ne s'est pas du tout revu à la deuxième élection.
C'est étonnant.
Et il y a un manque de confiance en les institutions, il y a une défiance aussi vis-à-vis de l'autorité qui grandit, je disais, avec les violences policières aussi. Donc, encore une fois, je suis allée retrouver des jeunes qui ont vécu ça. Enfin, ils n'ont pas envie de voter, en fait. Quand l'État vous a violenté, ça aide pas. Et donc, comme de manière générale, il y a une espèce de déliquescence qui ne touche pas que les jeunes. Il y a de moins en moins de votes. Voilà. Évidemment que les jeunes générations ne sont pas poussées à voter parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Et parfois, elles vont voter pour un truc très ponctuel, parce qu'elles vont avoir cette espèce de mobilisation, parce qu'ils ont l'impression que c'est utile. Et en fait, on va avoir des jeunes qui vont aller manifester, ce qui est globalement beaucoup plus engageant que d'aller voter, ce qui implique de prendre un après-midi, qui implique de prendre des risques maintenant, aujourd'hui, physiquement. Enfin, c'est un vrai truc. Et ils vont le faire, donc ils ont envie de s'impliquer, plutôt que d'aller voter, parce qu'ils ont l'impression que c'est plus utile, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont aussi les bénéfices directs de leur action tout de suite. Et quand ils votent, bah, ils ont l'impression que voilà, ça sert juste à rien. Et bon, moi, je vote, je défends le vote à fond, évidemment, la démocratie, mais je les comprends. Je les comprends parce que ça fait aussi des années qu'il y a un désintérêt total, voire un mépris pour les jeunes. Je ne vois pas pourquoi, à un moment, ils iraient s'intéresser à ça. Donc, en fait, ils n'ont pour beaucoup même pas suivi les débats. Ça ne les touche pas, ça ne leur parle pas. Et donc, les jeunes ont l'impression que les politiques sont des tous pourris, ce qui n'aide pas à vouloir s'impliquer, à vouloir faire le déplacement. Et après, je encore une fois, pour pas non plus accabler les jeunes, pourquoi ils votent pas, c'est aussi parce que pour beaucoup, c'est un moment où ils changent d'adresse, où ils sont un peu en vadrouille parce que pour leurs études X ou Y, qu'en fait la procédure pour faire une procuration n'est pas si simple que ça, et qu'il y a pas beaucoup de choses qui les poussent à voter non plus.
Une chose tu l'as mentionné, mais t'en as pas vraiment parlé finalement. Mais moi, qui me choque, parce que je lis énormément, évidemment, de choses, c'est la solitude. La solitude et aussi la peur. Enfin, la peur, mais... Bon, il y a la peur, il y a la sauvetagie, donc toute la peur qui sont liées à l'écologie, évidemment. Mais il y a aussi une peur, c'est-à-dire ce que tu observes quand même chez les jeunes, c'est qu'ils ont moins d'interactions sociales, ils sont plus seuls, ils ont moins de relations sexuelles. Il y a énormément de choses qui se passent, qui sont, enfin, à mon sens... hyper choquante, en fait, parce qu'ils font, en fait, ils font moins de bêtises. Il y a un article qui était paru dans The Atlantic en 2017 qui s'appelait ça va pas te plaire, mais n'empêche, il était intéressant, qui s'appelait Have Smartphone Destroyed a Generation. Donc, est-ce que les téléphones mobiles ont détruit une génération? Parce qu'en fait, ils sont à l'abri derrière leur téléphone. En fait, ils restent à la maison, que ce soit TikTok ou peu importe ce que c'est. Et finalement, ils interagissent moins. Et ce n'est pas la même chose d'interagir sur un réseau social ou d'interagir...
Bien sûr.
Et du coup, ça génère une solitude qui est extrêmement profonde, qui était beaucoup moins présente.
Alors, en fait, j'ai eu du mal à trouver des statistiques là-dessus, moi, sur cette solitude. C'est un sujet qui est venu. J'ai trouvé ce genre d'article et je ne l'ai pas abordé longuement parce que la question des écrans, elle a été très touchy à traiter, parce qu'en fait il y a des études très contradictoires sur le sujet et que j'ai pas de statistiques aujourd'hui qui me diraient très clairement les jeunes sont plus seuls. Par contre, il y a des études qui disent très clairement les jeunes sont plus dépressifs, les jeunes sont plus inquiets, les jeunes sont plus pessimistes, et là on est très clair là-dessus. Et c'est pour ça que moi j'ai préféré m'attaquer à toutes les causes du pessimisme et tout ça, mais je pense que les écrans effectivement peuvent être aussi un facteur qui isole. Mais pour moi, le premier facteur qui a détruit et décimé la génération, c'était le Covid, c'était le confinement. Là les jeunes, ça a été c'est littéralement une pandémie de dépression. Et on le voit dans les chiffres. Et ça continue à tomber, même après l'écriture de livres. J'ai vu un article du Monde tomber il n'y a pas longtemps qui disait qu'un jeune sur cinq était en dépression. C'est absolument fou. Enfin, avait des symptômes dépressifs. Et donc, oui, je pense que les écrans peuvent participer à ça. Mais idem, c'est pour ça que je n'ai pas trop voulu m'attarder sur cette question des écrans. C'est que qui a mis des écrans entre les mains des jeunes? Les jeunes qui ont aujourd'hui 18 ans, 20 ans, ils ne sont pas nés avec des écrans. C'est des parents... ou des grands-parents, ou enfin voilà, des adultes, qui leur ont mis à un très jeune âge entre les mains un appareil dont on ne connaît pas du tout les conséquences, en fait. En réalité, on n'a pas assez d'études, on ne connaît pas assez bien le phénomène. C'est pour ça que je ne veux pas dire « oui, ça isole » et tout, c'est parce que je trouve que le lien n'est pas assez documenté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas, qu'a priori, il y a quand même plein de conséquences négatives, et qu'on a mis des appareils... Alors, il y a certains scientifiques qui disaient que c'était aussi addictif que de la cocaïne, encore une fois, à discuter, mais quand même... entre les mains d'enfants de 5 ans. Donc après, on s'étonne qu'à 18 ans, ils soient là, addicts à leur téléphone. Bah.
Mais mon point, en fait, il était encore moins... j'ai mentionné cet article, mais il est moins sur les écrans sur la solitude, ouais. Le fait de faire moins de bêtises, le fait d'avoir moins de relations sexuelles, le fait de...
Pour moi, il y a moins d'insouciance, tout simplement.
C'est ça, en fait.
En général, et on est... Il y a tellement de problématiques qui sont concrètes, immédiates. Enfin, encore une fois, pour moi, la pandémie, c'est un truc tellement énorme que c'est évident que ça a marqué énormément de jeunes. Moi, c'est revenu dans la plupart des témoignages. C'est tellement grave aussi ce qui se passe autour de nous. Et ça touche tellement à l'intime parce que toutes les conséquences économiques dont je parle, même l'écologie, tout ça, c'est des choses en fait, qui, à la fin, nous touchent dans notre vie, que c'est dur de se dire « Oh, bah, moi, j'ai juste une sexualité tranquille. Je pense qu'à sortir. » Bien sûr qu'il y a des jeunes qui ont, heureusement, encore une forme d'insouciance.
On leur souhaite.
Mais ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement, il y ait une solitude qui se développe et surtout un... Ouais, quand j'ai, ce que j'ai retrouvé dans mes témoignages, encore une fois, c'est ceux que j'ai pu trouver. Je ne dis pas qu'ils sont représentatifs de tous, mais c'était aussi cette sensation d'être face à un mur et d'être seul face aux adultes qui ne nous comprennent pas et de ne pas savoir où on va et d'avoir l'impression de décevoir. C'est quelque chose qui revenait beaucoup, de décevoir ses parents, de décevoir son entourage, de décevoir ses profs, de ne pas y arriver, de ne pas comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce livre aussi. Et d'ailleurs, à chaque fois, je passais du temps aux jeunes à dire « mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à être comme ça. Et vous n'êtes pas seul à avoir ce sentiment d'échec, ce sentiment où voilà, on ne sait pas où on va ». Et peut-être qu'effectivement, il y a aussi de la solitude là-dessus et que ça aide pas. Et pour revenir à ta question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure sur l'extrême droite, parce que je suis partie sur l'abstention, mais je n'ai pas oublié. Je pense qu'effectivement, c'est cette solitude de certains, cette détresse de certains, couplée à un accès aux réseaux sociaux complètement dérégulé, avec une prédominance de plus en plus importante d'idées d'extrême droite, de radicalisation, ça fait des jeunes qui peuvent se radicaliser à droite. Et d'ailleurs, j'ai deux témoignages là-dedans, dont un jeune d'extrême droite, enfin qui vote Éric Zemmour, qui m'explique en fait comment il y est arrivé. Et en fait, c'est par Internet. Et c'est aussi en se sensibilisant avec avec ces discours-là qui sont adaptés à l'infini sur TikTok, sur d'autres plateformes, et avec toujours ce sentiment d'insécurité. Pour moi, l'extrême droite, le premier parti des jeunes, c'est l'abstention. Ensuite, ça reste quand même de la gauche plutôt radicale. Donc là, l'élection présidentielle, c'était Mélenchon, NUPES. Et ensuite, c'est l'extrême droite, effectivement. Mais dans tous les cas, le point commun de ces trois trucs, c'est quand même que c'est une rupture. Voter pour l'extrême droite, c'est vraiment faire un choix de rupture. Moi, je ne pense pas que c'est la bonne rupture, mais je veux dire que ça reste aussi adhérer à un discours quasiment apocalyptique de grand remplacement, de danger, donc qui rejoint cette idée que je défends de que les jeunes sont pessimistes. Et ensuite, de dire, c'est un espèce de repli identitaire, mais c'est une forme d'action un peu radicale, même si, encore une fois, politiquement, en plus, ils ne font pas du tout ce qu'ils disent. Pour moi, c'est un gros... c'est un leurre, évidemment, l'extrême droite. Mais on peut imaginer pouvoir comprendre pourquoi des jeunes qui sont dans une certaine détresse, une certaine solitude, qui en plus sont confrontés à des discours qui sont de plus en plus banalisés, y compris dans les médias et sur les réseaux sociaux, à un moment se disent peut-être c'est ça la solution. Peut-être que la solution, c'est de faire toutes ces mesures que je trouve abominables promues par l'extrême droite. Mais en tout cas, ça trahit une certaine détresse. Et on ne peut pas juste dire, mais d'ailleurs de manière générale avec le vote d'extrême droite, on ne peut pas juste dire les gens sont cons, ils votent pour l'extrême droite, pas du tout. Il y a un moment quand il y a des millions et des billions de personnes qui votent pour un parti, il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur ce qui nous a amené à ça. Et je pense que ce sentiment d'insécurité globale, c'est-à-dire que je ne parle pas de l'insécurité dont parle l'extrême droite, qui est de l'insécurité dans la rue, mais je pense qu'il y a une terme d'insécurité générale qui est aussi couplée à l'insécurité physique qui est réelle, sur laquelle surfe l'extrême droite, mais qui existe aussi, qui fait que, évidemment, on va avoir des jeunes qui vont être sensibles à ces parties-là, et aussi, tout simplement, leur jeunesse, pour le coup, qui fait qu'on ne se souvient peut-être pas, quand on a 20 ans, de ce qu'a été le Front National, le Rassemblement National, le Front National, Jean-Marie Le Pen, tout ça, parce que c'est plus loin.
Mais en fait, tu vois, c'est rigolo, parce que, tu sais, moi, j'habite pas en France... Et moi, je suis parisien, je viens d'une cité en banlieue, quoi. Donc vraiment, l'insécurité, c'est quelque chose... Enfin, je suis né dedans, en fait. Je faisais partie de l'insécurité. Donc, et en fait, en partant, j'ai réalisé que d'abord, il y a une énorme charge mentale, effectivement, de violence du quotidien, en tout cas à Paris. Et la compréhension que j'en ai, c'est que c'est surtout l'expression du fait que les gens vont hyper mal. C'est-à-dire que les jeunes sont dans on parle de pandémie de santé mentale, mais c'est vrai chez les jeunes, mais c'est vrai chez les plus vieux aussi.
C'est-à-dire
que les gens vont hyper mal.
Après, pourrait revenir sur les causes de la délinquance et tous les facteurs d'insécurité. C'est évident que ces causes sont sociales et économiques. Enfin, je vais pas, j'invente rien là. Les gens ne naissent pas violents. Il y a des facteurs économiques et sociaux qui créent des endroits d'ailleurs particuliers en France où on a comme par hasard beaucoup plus de violence que dans d'autres. Des endroits où il y a plus d'État, moins d'État, plus de services publics, moins de services publics. Et c'est évident que c'est aussi ça qui crée cette insécurité. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent d'extrême droite qui ne sont pas confrontés à l'insécurité. Il faut aussi un moment en reparler. Donc,
ça s'impose même.
C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre au sérieux ce vote d'extrême droite des jeunes, mais bien rappeler qu'il n'est pas majoritaire, qu'il augmente quand même doucement, mais qu'il constitue pour moi avant tout une volonté de rupture.
D'ailleurs, ouais, tu sais, j'ai reçu Hervé Lebras, tu vois pas qui c'est.
Non.
C'est un historien, géographe, qui a écrit un bouquin sur le grand remplacement.
Ah, oui,
pour le débunker, en fait.
Ouais,
Et ce qu'il te dit, c'est que lui, donc, il fait des cartes, c'est un géographe. Et en fait, les cartes de vote extrême droite et les cartes de la présence, de manière même micro, donc on parle pas de trucs macro, et la présence de personnes, je sais pas comment dire, immigrées, mais enfin, c'est même pas, parce que ça peut être immigré de seconde génération, s'opposent. C'est-à-dire qu'en fait, en général, quand des personnes d'origine, on va dire, enfin, je sais même pas, enfin, je déteste ces expressions parce que ça me rend fou, mais
issu de l'immigration,
ouais, issu de l'immigration, mais enfin, tu vois, moi, je suis pas du tout issu de l'immigration, et en même temps, tu me vois dans la rue, tu dis, tiens, il est issu de l'immigration. Donc, donc bref, mais donc des personnes qui sont de couleur, on peut dire ça comme ça.
Il paraît qu'il faut pas dire de couleur, non, parce que
oui, je sais pas comment le prononcer, franchement, mais
bon, on va dire issu de l'immigration.
Bref, ben en fait, quand c'est ton boucher, quand c'est ton policier, quand c'est ton je sais pas quoi, t'as moins de potentiel racisme ou de peur, parce qu'en fait, ils font partie de la société.
Oui.
C'est quand tu ne sais pas qui sont ces gens,
en
fait,
bah oui,
que tu développes de la peur.
Oui, oui, bah, bien sûr. Je pense que. Mais après, on pourrait revenir longtemps sur les causes de la montée de l'extrême droite en France.
Oui,
moi, j'ai essayé de ne pas trop m'y attarder,
non,
parce que c'est pas le sujet,
pas sujet,
mais.
Pour revenir aux jeunes, c'est quoi les poncifs qui t'énervent le plus de la part des générations plus âgées?
Bah, c'est vraiment l'accusation en paresse. Moi, c'est celle qui me rend la plus folle, parce que les accusations en paresse de la part de personnes qui ont bénéficié pour beaucoup du contexte des Trente Glorieuses, avec un contexte économique extraordinaire où il n'y avait que des CDI, où bien sûr qu'il y avait aussi, et je le dis, des conditions difficiles pour certains employés, tout ça. Hein. C'est pas tout rose, il n'y a aucune époque qui est toute rose. Donc bien sûr. Mais quand même, globalement, les historiens sont à peu près d'accord pour dire que c'était une espèce de parenthèse dorée économiquement, où il y avait de la croissance infinie, où il y avait des emplois, où il n'y avait quasiment pas de chômage, où on pouvait pas forcément faire beaucoup d'études et arriver direct à avoir un CDI, avoir accès à une voiture, puis une maison, puis un prêt. Enfin, c'était quand même pas le même contexte. Et c'est ces gens-là qui, pour beaucoup, vont venir dire aux jeunes « Non, mais les jeunes, aujourd'hui, ils n'aiment pas travailler. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont paresseux. Aujourd'hui... » Et ça, je ne le supporte pas, parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, en plus. Les jeunes travaillent, les jeunes font des études, les jeunes ont des emplois à côté de leurs études. Je veux dire, ils font des apprentissages, ils font des services civiques, il y a tellement d'emplois précaires, mais il y en a tellement qu'on s'est, enfin, de statuts, quoi, qu'on a réussi à créer entre le stage, l'intérim, le service civique, le CDD, on sait plus quoi faire, mais il y a vraiment un nombre incroyable d'emplois précaires. Et les auto-entrepreneurs, j'oubliais, bien sûr, le sacro-saint graal du statut d'auto-entrepreneur, tout ça fait que les jeunes sont dans une grande précarité, qu'ils sont obligés de beaucoup travailler pour beaucoup, pour survivre, à part, évidemment, les jeunes de classe très privilégiée, bien sûr, qui, eux, s'en sortent très bien. Mais c'est pas la majeure partie des jeunes. Et donc, ces accusations en paresse, moi, me font bondir, vraiment, parce qu'en plus, elles viennent de la bouche de gens qui, eux, ont pas eu le même contexte, quoi. Donc, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont même pas eu les mêmes difficultés, ils viennent nous donner des leçons. Donc là, j'ai du mal un peu à le digérer. Et ensuite, il y a ce fameux truc de les jeunes seraient... égocentré, individualiste, narcissique, enfin il y a cette espèce de truc, parce qu'il est vrai que les réseaux sociaux exacerbent un peu ça, mais c'est oublier complètement la part d'intérêt que peuvent avoir beaucoup de jeunes pour tout un tas de sujets où par exemple, il y a des statistiques qui montrent que les jeunes lisent plus qu'avant. C'est complètement, ça va complètement à contresens de de ce qu'on nous dit, de ce qu'on pense. En fait, les jeunes sont très impliqués, par exemple, dans les milieux associatifs, plus qu'avant. Hop, bah, il se trouve que... Alors, quand je dis associatif, c'est pas forcément aller aider des gens, ça peut être des associations sportives, ça peut être... Mais donc, on a plein de jeunes qui font plein de trucs, en fait, et qui sont impliqués dans la vie collective, qui sont... on a un essor incroyable sur les réseaux sociaux de vulgarisation aussi de géopolitique, de littérature, d'histoire. C'est pas tous les jeunes qui regardent ça, mais c'est quand même assez gros pour que ce soit des économies à part entière. On a un phénomène sur TikTok, je dis pour moi qui illustre bien ça, qui s'appelle BookTok. En fait, c'est des jeunes qui parlent de livres aux autres jeunes. Et donc, quand on parle de TikTok, on va pas souvent parler de ça. On va plus parler des dérives, de machin. Et donc, en fait, on a des jeunes qui sont intéressés par plein de choses et qui, à force d'entendre qu'ils sont un culte, finissent par le croire. Et ce que je raconte, c'est que j'ai rencontré des jeunes à certains moments où j'ai toujours posé cette question de comment vous vous informez ? Est-ce que vous vous considérez comme informé ? Est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous connaissez la géopolitique ? Et la plupart des jeunes, plus ils étaient jeunes et moins ils étaient de milieux favorisés, plus ils allaient me répondre « Non, non, moi, je ne connais rien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, voilà. » Parce que j'ai l'impression que limite, ils avaient peur que je leur pose une question, quoi, d'interro. Mais non, mais c'était terrible. Et en fait, après, je leur disais « Mais t'as vu ce qui se passe en Ukraine ?» Au moment où je faisais des entretiens, c'était surtout cet été, donc voilà, pleine guerre en Ukraine. En fait, il n'y a aucun jeune qui avait pu louper la guerre en Ukraine. La plupart savaient qu'il y avait des crimes de guerre. La plupart avaient des... En fait, ils ont vu passer des vidéos. Ils ont vu passer des choses. Ils ne connaissent pas le truc par cœur. Mais ils sont intéressés. Ils sont inquiets. On prend le cas de la Palestine. Beaucoup de jeunes m'en parlent spontanément. Parce qu'ils ont vu passer là des stars qui leur ont parlé de ça, ils ont vu des vidéos, ils ont vu des photos, ils ont vu des bouts d'articles. Alors effectivement, encore une fois, c'est pas forcément linéaire avec un cours d'histoire géo derrière, mais ça les touche, ça les intéresse et ça les inquiète pour beaucoup d'effets. Pareil sur le changement climatique. Globalement, il y en a plein qui savent ce qui est en train de se passer, qui sont inquiets pour ça. Et ensuite, ils ont des centres d'intérêt très précis. Ça peut être, je pense à un jeune qui en fait écrivait le soir des chansons de rap, qui enregistrait sur son téléphone, mais c'est de la culture. Je veux dire, c'est
bien sûr, bien sûr.
Faut arrêter de dire ouais les jeunes sont fous, ils sont juste sur leur réseau, ils sont complètement cons et ils sont centrés que sur eux-mêmes. Maintenant, en fait, il y a plein de jeunes qui créent. Vraiment, il y a plein de jeunes qui créent dans plein de choses. Et moi, je trouve ça fou les réseaux sociaux parce qu'on a mis ça à disposition des jeunes et la plupart d'entre eux se sont mis à créer dessus. Alors, ils se copient les uns entre les uns les autres. Ils font plein de trucs. C'est très divers. Il n'y a pas une façon d'être sur ces réseaux. Mais globalement, ils se mettent à prendre des photos. Ils se mettent à... Alors oui, certains, c'est des photos de leur repas. Mais quand même, ils créent du contenu. Ils créent des choses. Il y en a plein qui ont une identité. Il y en a qui créent voilà, de la musique, de l'art, de la photo, de tellement de choses différentes que ce serait vraiment... C'est injuste de dire « Ouais, les jeunes sont juste un peu cons et égocentrés, quoi. » C'est complètement faux.
Et d'ailleurs, TikTok est beaucoup plus créatif que Instagram.
Oui.
Tu vois, si on parle de génération, en l'occurrence, que Instagram, c'est pas un truc de vieux, précisément, mais...
Non, il y a les deux.
Mais c'est en train de le devenir.
C'est en train de le devenir, comme Facebook.
Mais en fait, c'est sur TikTok...
Là, c'est sur TikTok que tout se passe aujourd'hui.
Voilà. Après, t'as d'autres réseaux, mais...
Mais voilà, on a aussi sur TikTok des jeunes qui sont, oui, effectivement, très créatifs. Après, attention, hein, je ne fais pas l'éloge de TikTok, soit bien clair, parce que ce réseau ne va pas du tout par bien des aspects. Je ne suis pas du tout en train de dire que TikTok, c'est merveilleux. Mais il faut bien se rendre compte de l'espace de créativité que c'est. En fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas une bonne manière de créer ou une mauvaise manière. Je dis juste que c'est la preuve que les jeunes veulent créer et qu'ils sont prêts aussi à s'engager. On revient sur la question de l'engagement et sur les réseaux sociaux. Il y a le The Event. Donc, il y a un événement qui est organisé sur la plateforme Twitch chaque année, où il y a les Twitch streamers qui vont streamer pendant, je ne sais plus, c'est 48 heures d'affilée et qui vont jouer aux jeux vidéo, enfin, qui vont faire tout ce qu'ils font d'habitude sur cette plateforme et qui vont lever des fonds pour une association. Là, en l'occurrence, cette année, c'était des associations pour le climat, enfin, écologique, ou pour la préservation des fonds des océans, enfin, je ne sais plus, il y en avait plusieurs. Et en fait, là, on a un public qui de manière absolument écrasante, qui est jeune, qui va regarder ça, qui va s'intéresser aussi à ça et qui va carrément donner de l'argent, alors qu'ils n'en ont pas, hein, pour la plupart. Et ils lèvent des... Enfin, cette année, c'était 10 millions d'euros.
C'est fou.
Donc, c'est des sommes qui sont absolument... C'est du jamais vu, c'est absolument colossal. Et donc, pour des jeunes qui s'en foutent, je trouve qu'ils sont quand même capables de donner 10 millions d'euros.
Ils sont bien engagés quand même.
Ils ne le font pas que pour la cause, ils le font aussi parce que c'est leur streamer préféré. Enfin, soyons bien, je suis nuancée dessus. Mais quand même, je veux dire, à quel moment on en parle de cette jeunesse-là, qui est en fait typiquement la jeunesse qu'on va critiquer, la jeunesse dite geek, la jeunesse qui est sur ses écrans, qui va rester peut-être dans sa chambre et tout. Bah, cette jeunesse-là, elle est capable de lever 10 millions d'euros pour le climat. Est-ce que quelqu'un d'autre fait ça? Je veux dire, c'est un moment. Non, mais à la place des décideurs. Et après, en plus, il y a Emmanuel Macron qui va venir les féliciter au lieu de faire le boulot lui-même.
Exactement.
Donc c'est... Non, mais je pense qu'en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de positifs chez la jeunesse. Je ne dis pas du tout que c'est une jeunesse parfaite, que tout le monde est... Enfin, tout le monde est des contradictions. Voilà, il y a, bien sûr, il y a plein de problématiques qu'on retrouve chez cette jeunesse. Mais globalement, moi, je trouve que c'est une jeunesse qui mérite de la considération, qui mérite du respect et même qui donne de l'espoir pour la suite.
Le podcast s'appelle Vlan. Donc, je veux savoir à quoi tu veux claquer ou ouvrir la porte. Ouvrir ou claquer, ouvrir, comme tu veux. Et où, d'ailleurs?
Non, je pense que j'ai envie de claquer la porte aux clichés sur les jeunes qui sont véhiculés et de vraiment ouvrir la porte aux personnes plus âgées, en fait, pour qu'elles tendent la main aux jeunes. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de ça. J'ai envie de dire, entre guillemets, c'est eux les adultes aussi, quoi, à un moment. Et de dire, bon, Vous êtes informé. Si vous voulez être mieux informé, peut-être vous pouvez lire mon livre. Promotion très subtile. Non, mais vraiment. Non, mais pour en tout cas débunker les clichés sur la Genèse, évidemment, il y a plein d'autres ouvrages hyper intéressants sur le sujet. Mais en tout cas, d'essayer de changer de regard sur la Genèse et de tendre la main vraiment aux jeunes et dire OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre votre futur plus désirable ? Et ça, j'espère vraiment que ça va se développer et que ça va. Et quand je dis tendre la main à la jeunesse, j'insiste énormément sur le fait que ce n'est pas juste tendre la main à ses enfants et à ses petits-enfants dans sa famille. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une solidarité intergénérationnelle, elle existe, hein. Elle est très présente, elle sauve beaucoup de jeunes. C'est les parents et les grands-parents qui vont aider les enfants. Le problème, c'est qu'ils n'aident pas toute la société dans laquelle ils vivent.
Bien sûr.
Et que même si vous avez aidé que votre enfant, bon, c'est bien, mais ça ne va pas empêcher le changement climatique,
exactement.
Ça
ne
va pas empêcher la dégradation, l'augmentation des tensions sociales à cause des inégalités, tout ça. Donc en fait, on a besoin que les personnes plus âgées se politisent un peu, là, et se politisent dans le sens de l'aide à la jeunesse, et pas juste de leurs intérêts, de leur patrimoine, parce qu'aujourd'hui, ils votent comme ça. Aujourd'hui,
bien
les
sûr.
Personnes âgées votent majoritairement pour des partis conservateurs qui conservent leurs intérêts économiques. C'est ça qui se passe. On a besoin qu'ils arrêtent de fonctionner de cette façon. Et ça ne passe pas que par le vote. Ça passe par où on place son argent, par évidemment pour qui on vote, par quel engagement associatif, par essayer de comprendre les jeunes autour de soi, de peut-être leur donner les moyens, de peut-être s'investir dans son quartier pour, je ne sais pas, aider des jeunes qui auraient tel projet, parce que vous avez les capacités financières ou le temps, tout simplement, parce que vous êtes retraité. Et donc moi, j'ai vraiment envie d'ouvrir la porte à ces personnes plus âgées et dire, en fait, on n'a aucune animosité contre... Parce que là, j'ai un discours un peu virulent, mais je veux dire, encore une fois, les choses sont faites, c'est fini. Là, aujourd'hui, on est en 2023, on ne peut pas changer ce qui a été fait et c'est ce qui va être fait demain qui importe.
Merci beaucoup, Salomé.
Merci à toi pour l'invitation.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.